Et sur le 113 Rock, sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, If You Want Blood, AC/DC, extrait de l'album Highway to Hell, 1979-2019. Ça sent l'anniversaire quand même, non? Décidément. Jean-Pierre, qui est spécialiste d'AC/DC, d'ici quelques minutes, va nous en dire un peu plus. En tout cas, restez bien branchés. Vous êtes sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, avec Mélodie Carmarcom, avec vous tout de suite en musique avec The Beatles. Extrait donc de l'album The Beatles, le titre Helter Skelter sur le 113 Rock, sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, avec Mélodie Carmarcom, 213 Rock.
Top of the slide, we'll stop and turn and go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you.
Et sur la radio Vinyl Times, le Classic Rock Radio, avec nous en direct, himself, le seul, le vrai, le Nick, Jean-Pierre Sabouret. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Arag.
Comment vas-tu? Ça va? Tu vas bien?
Eh bien écoute, formidable, formidable. J'ai encore vu des parmi les plus beaux concerts de ma vie, mardi soir.
Ouais.
Voilà, je vends les pains. Ah. Magma et King Crimson, la même soirée. Et je peux dire que même les métalleux auraient été à la fête parce que ça pulsait... Il y avait des moments vraiment très, très, très intenses.
Ouais, c'est... Ouais, donc je dis donc tu commences l'interview quand même assez fortement, quoi. Alors, pour rappeler un petit peu Jean-Pierre Sabouret, qui est Jean-Pierre Sabouret? Jean-Pierre Sabouret, c'est donc c'est une...
Oui, j'aimerais bien savoir.
Ouais, j'aimerais savoir. C'est une énorme carrière. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de choses, mais faut quand même préciser. Donc, t'as démarré, je crois, dans 84, 85, quelque chose comme ça, chez ouais, M6, ouais. C'est ça, Boulevard, c'est ça?
Non, 84, c'était les débuts. Enfin, après, avant ça, j'avais fait deux, trois bricoles, dont des radios libres, cher ami.
Ouais.
Je sais pas, des 80. Et puis, donc, c'était Hard Rock Magazine qui a démarré en fin 84.
Oui, t'as débarqué avec tes photos. Tu voulais faire photographe et finalement, tu t'es retrouvé à la pige.
avec deux, trois mois en tant que nègre.
Voilà. Ouais. Ouais.
Des traductions et je préparais les questionnaires parce que il n'y avait pas un seul journaliste du magazine qui parlait correctement anglais à cette époque-là.
D'accord, ok.
Voilà.
Bon. Ouais.
Mais c'était un peu le cas en France en général. Hein. Vraiment, tu trouvais très 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 peu de gens qui parlaient anglais.
Mm-hmm.
Voilà.
Et ensuite, de mémoire, ensuite il y a eu donc il y a eu les émissions de TV. Ça a été, c'est arrivé. Il y a eu Boulevard, je crois. Ouais, il y a eu Boulevard. T'as enchaîné Boulevard, t'as enchaîné Rock'n'Hard, t'as enchaîné Dr. Arn and Mister. Non, Dr. Heavy et
Docteur
Mr. Had. Ouais,
Mr.
Arn.
Et puis CM6, c'était chez MCM à l'époque qui démarrait fort.
Ouais, qui démarrait très fort, ouais, effectivement. On était tous devant nos téléviseurs à l'époque, c'est parce que c'est comme ça qu'on disait. On disait pas les écrans, on disait nos téléviseurs. Ouais.
Maintenant ils sont grands, on peut plus dire ça.
Et ouais, maintenant ils sont tellement grands, effectivement. Et ensuite, il y a eu toute une histoire de magazines après. Il y a eu le Hard Navy, il y a eu tous les magazines de guitare
voilà,
qui t'a
ça.
Bossé, bien sûr. Donc voilà quoi. Donc concrètement, une grosse carrière de journaliste. Donc on a pas fait le tour parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. T'as fait aussi des hors-séries. T'as fait, tu as écrit sur l'histoire secrète, oui.
Sur un peu épuisé, mais on peut le trouver à droite, à gauche.
Ouais. T'as écrit sur les Red Hot, t'as écrit sur l'histoire secrète de Rammstein. Faut que je le lise ça parce que je l'ai pas vu encore. Ça m'intéresse.
Bon, ça c'est des tout petits bouquins, mais c'était rigolo quand même.
Ouais, ça devait être rigolo. T'as fait un truc sur Led Zeppelin aussi.
Led Zeppelin. Ah oui, les
Alors,
hors-série
ouais.
Q. Voilà, oui, ça c'était plutôt dans ce cas-là, la traduction. J'ai fait aussi un gros bouquin sur les Beatles, c'est un gros bouquin avec Isabelle Shelley notamment, sur Bob Dylan.
Ouais.
Voilà, les bouquins Mojo, voilà.
Ouais, et ensuite il y a eu le We Are All Motorhead que t'as fait, qui est sorti chez Camion
Absolument.
Blanc, absolument.
Ouais.
Ouais,
oui, oui.
et puis il y a le Hard Times avec l'âge d'or du hard rock, quoi.
Voilà.
Ouais, donc tu vois, je me suis bien renseigné.
Mais formidable, mais extraordinaire.
Donc t'as écrit beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est pour un peu. Bah, j'aime pas dire le mot résumé, mais c'est un peu pour entamer l'interview et pour présenter qui est Jean-Pierre Sabouret, quoi. Voilà quoi. Donc tu nous disais, donc t'as vu Magma, effectivement, t'as vu Crime Crimson. Tu commences très fort.
Oui, que je recommande vraiment à tous les métalleux et l'un et l'autre,
ouais.
Parce qu'il y a vraiment des passerelles et c'était de la musique intense. D'ailleurs, Magma, je te le rappelle, a joué au Hellfest.
Ouais.
Voilà. Et il va jouer bientôt au Motocultor. Voilà, déjà, ça c'est dit.
Ouais, je sais pas comment ils vont recevoir ça, les métalleux, quoi. J'ignore totalement.
Ça passe très bien, puisqu'il y a toujours des espèces de diversions, ou alors certains diraient trahison, mais ça se passe très bien. C'est un public le plus gentil et tolérant de la Terre. Voilà.
Ouais. Donc, allez, back into 1968, les Beatles, ta fameuse phrase, les Beatles sont le premier groupe de hard rock. C'est toi qui l'as dit, cette phrase-là.
Alors pour moi, oui, et même j'irais jusqu'à dire de métal, et
ouais.
C'est plutôt une histoire de son, voilà, parce que j'ai eu le double blanc, et après j'ai cherché désespérément à droite à gauche pour retrouver vraiment le même genre de son, et c'est à partir de Led Zeppelin, à partir de Jeff Beck, à partir de Ted Nugent, que sais-je, Judas Priest, Deep Purple, enfin, c'est dans tous ces groupes-là que j'ai retrouvé des choses assez proches, voilà, du double blanc. Mais il faut vraiment écouter non seulement Helter Skelter, mais aussi plein d'autres passages de double blanc qui recèlent vraiment des trésors et qui est très 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 électrique.
Donc
voilà. Voilà, et très moderne, on va dire, pour ce qui est de la production, du son, etc. Alors que justement, pour la petite histoire, Helter Skelter, au départ, ça devait être un blues un peu électrique, mais un blues assez lent. Et puis McCartney a lu une histoire, enfin une interview de Pete Townshend, donc il disait on vient d'enregistrer un morceau le plus violent de toute l'histoire du rock and roll, etc. Vous allez voir ça, accrochez-vous. Et puis comme les Beatles c'était un petit peu quand même les princes de cette époque, etc. Il fallait pas qu'ils se fassent doubler, il fallait pas, voilà. Donc il a pris ça comme un défi et quand ils sont retournés en studio, il a transformé un peu Helter Skelter. Quelques prises et ça a donné dont une d'ailleurs une version avec de plus de 25 minutes de délire électrique, voilà, qui malheureusement n'a pas été retrouvée, mais il y en a plusieurs versions différentes qui sont quand même pas mal, voilà, dont c'est... celle que je suppose que tu as passée.
Donc ouais, donc ça date de 1968, c'est bien ça, Jean-Pierre? On est là.
Alors, ouais. Je ne dis pas, il y avait pas mal de groupes garage, garage rock. Il y avait bien des choses qui annonçaient tout de même. Et puis après, si on remonte aux classiques ou même les certaines musiques tribales, bien sûr que le hard rock ou le metal est en jachère dans toute l'histoire de la musique. Voilà, c'est pas simplement, mais en tout cas dans le rock et électrique qui plus est, c'est là où on a été pour la première fois vraiment très 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 décoiffé. Ouais. Pour info, à cette époque-là. Black Sabbath s'appelait encore Earth et c'était plutôt du folk champagne.
Ouais, mais en parallèle, il y avait Arthur Brown aussi, parce que très souvent, on remonte aux influences vraiment. Il y avait Arthur Brown qui sortait Fire à la même époque, à la même période.
Ouais, avec l'excellent Vincent Crane qui après a fait Atomic Rooster, dont je vous recommande l'écoute. Mm-hmm. Excellent clavier, mm-hmm. mais voilà, c'était très clavier. Hein. Mm-hmm. Mais bien sûr, il y avait des énervés à l'époque. Hein.
Ouais, c'est étonnant quoi. Enfin moi je sais, enfin quand je vois Fire de Arthur Brown, oui, oui. Je vois Alice Cooper et je vois Kiss quoi qui vont arriver derrière et plus tard King Diamond.
Absolument. Oh, c'était, on peut dire que même pour ce qui est d'Alice Cooper, ils sont contemporains tout à fait.
Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs voilà. Alice Cooper n'hésite pas à inviter Arthur Brown parfois sur ses shows quoi.
Et Alice Cooper, encore une fois, au départ, c'était après avoir été scotché par les Beatles et après avoir fait une espèce de copie conforme des Beatles au lycée.
Waouh. Voilà. Ah ouais, d'accord. Là, c'est vraiment haut, ça. Hein. Ensuite, donc les années passent, et puis arrive donc toute la clique Judas Priest, bien évidemment. Enfin, Deep Purple, Led Zeppelin, Deep Purple, Judas Priest, Motorhead. Ta rencontre avec Motorhead.
Et idem, comme souvent. J'ai rencontré surtout aussi un immense fan des Beatles, un collectionneur et on se dépêchait presque de faire les interviews pour après parler Beatles et parce que c'est un sujet sans fin. Mm-hmm. Et voilà, lui, il a eu la chance de les voir au Cavern Club de Liverpool.
Qui? Lemmy?
Lemmy, oui, absolument. Oui.
D'accord.
Il était dans le public au Cavern Club de Liverpool, qui était le club où ils passaient leur journée, en fait, puisque c'était des concerts, ils faisaient plusieurs concerts dans la journée. Voilà. Et donc, c'était vraiment un mordu des Beatles, ça, je peux vous l'assurer.
Ouais, Lemmy, tu l'as rencontré quand, hein, la première fois? Tu as dû avoir une idée précise de ça?
Alors, la première rencontre, je saurais te dire, enfin, la première rencontre rapide, ça doit être effectivement 80 ou 81.
Ah, quand même, ah ouais.
Mais la première fois où on a commencé à parler, je pense, ça devait être fin 81 pour son anniversaire, le fameux. Voilà, dont je parle un petit peu au début du livre, où j'ai failli mourir parce que, bon, je lui avais eu le malheur de lui ramener une grosse bouteille de Jack, et malheureusement, nous l'avons fini. C'était donc la veille de Noël, comme chacun sait, l'anniversaire de Lemmy. Et après, j'ai eu le malheur de prendre ce qu'il ne faut jamais faire, hein, prendre ma voiture sur le périph. Voilà, j'ai fait une porte et demie, quoi.
Ah, ok. Bon, en tout cas, voilà, donc Lemmy.
Lemmy. Trois fois le même camion, voilà.
Et Lemmy, en fait, voilà, Lemmy, c'était une grande découverte pour toi, enfin, une grande découverte. Nous sommes en 81, donc.
Là, j'y ai retrouvé vraiment, et ça me confirmait après, lorsqu'on a discuté ensemble, j'y ai retrouvé effectivement plein de choses que moi je pressentais, notamment chez les Beatles. C'est-à-dire, c'est aussi un grand talent mélodique, on le dit jamais assez, mais les chansons de Motorhead, ça se peut se chanter sous la douche, c'est des super petites perles de composition, voilà. Faut être honnête, hein, c'est quand même beaucoup beaucoup de classiques du rock parce que déjà la mélodie vocale et quelle que soit la voix de justement qui à l'époque étonnait. Alors après maintenant, vu tout ce qu'on a entendu dans l'histoire, ça paraît presque une voix normale.
ouais. Sauf qu'à l'époque.
Mais à l'époque c'était absolument hallucinant. Mais
c'était très violent.
Et Motorhead pour la première fois quelqu'un, déjà il y avait cette voix. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, après, ça a été un peu pareil avec la vague trash, Metallica en tête, idem, qu'est-ce que c'est que cette manière de chanter, etc. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on en a vu? Donc, maintenant, ça ferait presque sourire.
Ouais, effectivement. Donc, il y a eu ta rencontre avec Motorhead. Il y a eu ta rencontre avec Motorhead, ensuite il y a eu ta rencontre avec Iron Maiden, déjà.
Oui, bien sûr, plein de fois. Voilà, ça c'est des super souvenirs. Parce que, qu'est-ce que j'ai découvert? Ça, et tu le confirmeras, c'est un milieu où mais 99% des musiciens, à part de très 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 rares exceptions, sont des gens excessivement sympathiques, très chaleureux, passionnés et très voilà, très agréables à côtoyer, honnêtement. Mm-hmm. C'est très très peu. Et pourtant, temps, malgré les... Voilà, tu sais comme moi, si jamais tu fais des soirées à rôder avec les potes, etc., ça peut mal finir. Eh ben, très, 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 très peu de mauvais souvenirs, car aussi bien chez Maiden que chez Deep Purple, que chez qui tu veux, quelle que soit la génération, je veux dire, bah, tu trouves des mecs vraiment super sympas. Après, voilà... J'ai retrouvé ça aussi au Brésil, avec Sepultura en gras, j'ai retrouvé ça. Et dans tous les coins du monde. Voilà.
Ouais.
J'ai retrouvé ça en Allemagne avec tout ce que tu voulais, Halloween, en Scandinavie. C'est une espèce de langage commun et qui fait tout de suite, qui crée une espèce d'ambiance, voilà, familiale, comme si on s'était des gens que t'as jamais vus la veille.
Ouais, voilà. Si tu veux, le métal, en fait, c'est une grosse communauté européenne, quoi.
Oui, maintenant c'est devenu ça, mais déjà à l'époque.
À l'époque, hein, je parle à l'époque. À l'époque, hein, j'en suis encore à l'époque, hein, quand je dis ça. Hein. Plus aujourd'hui, ouais, aujourd'hui, okay. C'est mondial, ok.
Voilà. C'était plutôt, on va dire, underground, faut être honnête. Hein. Même Eden, ça vendait quand même pas des milliards de disques. Et puis quand ils faisaient en concert, ils avaient 90% de leur public. Voilà. Ouais. voilà, tout le monde y allait, et presque tous ceux qui avaient acheté le disque étaient au concert, et inversement, tous ceux qui étaient au concert avaient acheté le disque, quoi, grosso modo. Donc ça a mis un petit peu de temps. Moi, je me souviens que le premier énorme succès en France, faut pas rire, hein, c'était quand même Europe avec Final Countdown.
Ouais.
Voilà. Mm-hmm. Et le premier qui a fait un énorme truc dans le top 50, etc. Enfin bon.
C'était pas Scorpion avec Still Loving You, peut-être?
Non, il y a eu Still Loving You, mais, enfin, disons, oui, les balades, ça, c'est vrai que c'est un peu la chose à part.
On a même vu Scorpion, même Scorpion chez balades, Club Dorothée, alors, c'est pour te dire.
Oui, voilà, c'est ça. Non, non, c'est sûr qu'il y avait eu Antisocial, il y avait eu Scorpion, il y avait eu quelques incartades, mais Europe, ça a vraiment fait un choc, en tout cas, au milieu des années 80, de se mesurer à tout ce qu'il y avait dans la variété française et tout ça.
Ouais, ouais, effectivement, Europe qui a débarqué en 86 et qui a tout cartonné. Europe, ça passait sur NRJ, je m'en souviens très bien. Voilà. T'avais le solo de John Norum comme ça qui sortait des enceintes comme ça d'NRJ. Tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui leur arrive, quoi? On comprenait plus, quoi. Et puis finalement, ça a été un boom, quoi. Et ça, en fait, ça a été un groupe d'appel. Ça a ramené beaucoup de gens qui se sont après dirigés vers du Bon Jovi, de plein de choses comme ça, quoi. En fait,
il y a une. Exactement. À partir de là, c'est parce que avant, ça a été des coups. Mmh. Oui, Scorpion a fait un coup, Trust a fait un coup.
Il y a eu ACDC.
ACDC aussi, mais idem, ACDC, ça ne passait jamais en radio.
Jamais, jamais. C'est toujours les concerts. Ouais.
Déjà, il ne faisait pas de balade part un blues par-ci, un blues par-là, Ride On ou autre. Mais c'est tout. Donc voilà, c'est ce qu'on leur reprochait. Et c'est ce que la maison disquaire disait. Hein, tant que vous ne ferez pas de balade, hein, on ne passera jamais en radio. Bon, je me souviens que Touch Too Much était passé un petit peu.
Il y a eu un single sur Touch Too Much aussi. Il y a eu un maxi 45 tours, ouais, qui était prévu à cet effet.
Ouais. Quelqu'un. Donc, ils ont essayé de le pousser. Mm-hmm. Plus d'ailleurs que curieusement Back in Black, alors que c'était gros succès. Mais bon.
Curieux choix.
Voilà. Si ça passait à l'époque, il y avait les petites jukebox dans les bars.
Mm-hmm.
Et donc on avait nos bars et puis on squattait le jukebox là pour le coup, du coup
ouais, t'écoutais. Ouais,
bien sûr, parce que à la fin les tauliers en avaient un peu marre de n'entendre que du hard rock pendant toute la soirée, voilà.
Bah ouais,
bon, sinon non ça c'est... Et faut pas oublier, il y avait pas de chaîne de télé, il y avait pas 50 chaînes de télé, il y avait pas 40 000 radios. T'en ouais. avais quoi, 4, 5, et puis 3 chaînes de télé, et puis c'est tout, quoi.
Bah, disons que le fait marquant, c'est qu'à cette période, on a eu, je me souviens très bien, quand il y a eu l'ES Festival, a été retransmis un samedi soir donc en France sur la télévision, donc on a ouais. on a eu l'ES Festival, ouais. Je m'en souviens très bien. Ensuite, il y a eu l'émission Sex Machine qui est arrivée, et je me souviens d'un soir.
Un spécial Hard Rock.
Ouais. Il y a eu un soir avec Motley Crue, Livewire, ICDC, et je sais plus que c'était quoi l'autre. Il y a eu Motorhead. C'était Motorhead. Voilà. Et c'était, je crois que c'était l'invité, c'était Lémy, me semblait, et dans une chambre d'hôtel. Hein?
Si mes souvenirs sont bons, il y avait Ozzy aussi qui traînait dans le coin.
Peut-être, peut-être. Je me souviens de Motley, Livewire, Motley Crue dans le premier album, Too Fast for Love. Je me souviens de Motorhead avec le Ace of Spades qui dit en concert, ça tuait directement. Je me souviens d'un AC/DC avec Brian Johnson au chant. Et voilà, c'était comme ça. Enfin, je me souviens, parce qu'à l'époque, c'était difficile de regarder ça avec les parents, quoi. Et moi, j'étais là, je négociais avec mon père, je dis écoute, j'aimerais bien regarder ça ce soir et tout. Et puis, quand t'avais Sex Machine qui est dans l'émission, déjà, tu dis à ton père, tu vas regarder Sex Machine à l'époque, c'était difficile. Ensuite, il fallait passer le cas de Sophie Favier et compagnie, donc c'était difficile, quoi. Et après d'arriver au hard rock. Donc je te dis, j'ai lutté. Je te jure que j'ai lutté, Jean-Pierre. Pour regarder ça, j'ai lutté.
Ah, oui, ça je vais bien croire.
Donc voilà, quoi. Tu vois, c'était l'époque, quoi. Donc ça a été énorme, quoi. Moi, quand j'y repense, c'était.
Oh, nous, on avait résolu le problème. On ne dormait jamais, c'est tout.
Ah, mais toi, Jean-Pierre, mon ami. Voilà, quoi. Et donc, en fait, à l'époque, ensuite, donc, c'était les débuts, hein, du hard rock, tel qu'on l'a connu, enfin, à la télévision. Entre temps, à la radio, bien évidemment, il y avait tes émissions, il y avait celle de Jeff, il y avait celle de Zégut aussi. Et c'était, ça commençait à.
Zégut, vraiment, je lui dois tellement à Zégut. Mm-hmm. Voilà, régulièrement, j'allais lui faire un petit, et à chaque fois, il me faisait découvrir des trucs. Ouais. J'ai notamment le souvenir du choc quand il m'a fait écouter Pretty Meds, le premier album de Pretty Meds. Waouh!
Ah, derrière, j'ai une anecdote là-dessus. Je me souviens, on était chez Olivier et puis on était en train d'emménager les bureaux et puis bah, je trouve une cassette comme ça, une cassette dans l'armoire. C'était le premier Pretty Maids avec un courrier à l'intérieur. Le tout premier, le EP, la première trace de Pretty Maids.
Oui, le EP. Après, je m'étais acheté le EP, effectivement.
Voilà, la cassette. Et je montre ça à Olivier. Olivier me dit, mais ça, je le cherche depuis je sais pas combien de temps. Je dis, voilà, regarde. J'avais cette pièce qui doit valoir je sais pas combien, le truc, le tout premier, la toute première trace de Pretty Maids. Ça, c'était énorme. Ouais, je me souviens de ça. Il y a eu des grands moments, en tout cas. Il y a eu des très, 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 très gros moments, quoi. Et bah, écoute, Jean-Pierre, dernière chose, l'histoire secrète de Rammstein. Alors ça, moi, ça m'intrigue, ça. Qu'est-ce que t'as bien pu mettre dedans, quoi?
Ah bah, on va dire que c'est pour un éditeur qui faisait des magazines plutôt ambiance assez teenager.
Ouais. Voilà. Mm-hmm.
Et du coup, il fallait un petit peu se montrer pédagogue. Et, et je t'avouerais que c'était Rammstein. Tu vois, fallait un petit peu les amener là-dessus. C'était pas le cœur de cible. C'était plutôt ceux qui écoutaient Fall Out Boy, Maroon 5 ou des trucs comme ça, tu vois.
Mm-hmm.
Et du coup, j'ai réussi quand même à vendre dans le truc en disant que quand même, c'est un groupe qui, mine de rien, était beaucoup plus passionnant à découvrir à cet âge-là pour plein de raisons et qui, curieusement, à mon avis, je sais qu'à cause des shows, de ceci ou de cela, c'est surtout à cette époque-là, c'est un groupe qui faisait un peu peur.
Mm-hmm.
Mais pour moi, j'ai toujours considéré que c'était un groupe vraiment très ouvert, très grand public et avec des tas de morceaux qui finalement ne sont pas si terribles que ça, quoi, sont écoutables par le commun des mortels. Voilà, donc et puis l'histoire secrète, c'était aussi les aspects en revanche un peu sulfureux du groupe, sa manière aussi de jouer le mystère, de refuser les interviews conventionnelles, de continuer à s'exprimer en allemand quoi qu'il arrive, des choses comme ça.
Ouais, c'est Rammstein, quoi, c'est ça. C'est moi, j'ai toujours considéré Rammstein comme la face réussie de Ministry, quoi. Je trouvais que c'était la suite de Ministry, quoi. Enfin, je trouvais que Psalm 69 a énormément influencé les débuts de Rammstein, quoi. Ouais.
Bah, je te dirais que c'est Oumph qui a réussi, mais bon.
Ah oui, il y a Oumph aussi qui a réussi, ouais, effectivement. Il y a ces trois-là. Et tu as raison, c'est vrai.
Oumph, c'était quand même très, très, très proche. Ouais. Enfin, moi, d'ailleurs, j'avais déjà un album de Oumph, et quand on m'a fait écouter Rammstein, j'ai dit, mais t'es sûr que c'est pas les mecs de Oumph qui ont changé de nom ou un truc comme ça? C'était quand même très, très, très proche.
Ouais.
Et puis,
Quand tu vois ce qu'ils ont devenu aujourd'hui, voilà, quoi. Ouais, voilà, quoi. Aujourd'hui c'est les stades, hein, c'est l'enfer, hein. Bon pote.
Mais c'est mérité, le dernier album, j'aime bien le virage, justement, assez clavier, mélodie, pop, etc. C'est logique.
Jean-Pierre.
Alors maintenant, je vais voir s'il va, tu sais qu'il est question que Till vienne chanter avec Zaz au Francofolies.
Ouais, j'ai entendu ça, ouais. Pas mal. Bon. Jean-Pierre, dernier thème pour la soirée. Dernier thème pour la soirée. Les prochaines années, là, les trois prochaines années qui arrivent, elles vont être rock'n'roll. Parce qu'il y a un album de Guns qui arrive. Il y a du AC/DC dans l'air. Il y a du Metallica. Ça c'est sûr. Il y a du Maiden. Il y a du Judas. Il va y avoir encore beaucoup de choses, là. Je pense que là, les trois prochaines années vont être énormes, quoi.
Ouais, mais tu vois, tu parles que de... Et moi, c'est ça qui m'embête beaucoup. Tu ne parles que des grands anciens. Ou moi, je commence à en avoir marre. Tout le temps les mêmes depuis 40, 50 ans.
Ouais,
mais... Moi, je n'attends qu'une chose, c'est que des Ghosts fassent vraiment déjà un premier monument. Pour l'instant, ils ont fait des bons albums. Je dis quand même qu'ils ont aligné quelques classiques pas dégueux. Mais il manque encore, je pense, la production qui sera au niveau. J'attends aussi beaucoup de Greta Van Fleet,
ouais.
qui chope un petit peu plus de mais c'est déjà bien, les gamins. Voilà, il faut pas oublier qu'ils sont à l'âge où Jimmy Page n'avait pas encore créé les Zeppelin et où il pompait encore le Chicago Blues tout en clignant de sa plume chez les Yardbirds ou autres. Voilà. Donc, je défendrai toujours, de toute façon, les groupes de petits jeunes qui, à un moment... ce qui me gênait, c'est que de voir dans le public que des gens qui pourraient être leurs parents, mais bon.
Ouais, mais donc, juste pour te répondre, c'est que les grands, ouais. ça ramène toujours du public. Et ensuite, une fois que le public il est acquis, il va s'intéresser peut-être à des plus petits. C'est ça aussi l'important. C'est ça. Et effectivement...
Mais ça monte pas en première division, quoi. Pour l'instant, ça reste que des équipes espoirs et encore...
par exemple, tu vois, là, je m'investis sur un peu sur la scène rock, ouais. en Algérie, et là je vois très récemment, donc j'ai une correspondante qui me dit mais écoute, hein, y a des jeunes là, ils ont commencé à former des groupes, chose qui n'est pas arrivée depuis très longtemps. Donc il y a tout un travail fait par des associations, ouais. et sur place, donc des associations, donc qui travaillent ce terrain là et des gamins qui commencent à se mettre à la musique, enfin au groupe, à faire des groupes et tout. Je me dis quel bonheur, c'est génial.
Et puis surtout, ils vont, parce que c'est ça aussi le gros problème majeur, on va dire, du heavy metal de ces dernières années. Il n'y a pas vraiment de révolution, il n'y a pas vraiment un qui te fait oublier tout le reste, qui fait un peu table rase, parce qu'il arrive avec un son, avec des idées, avec des influences. Donc j'ose espérer effectivement que tout ce qu'ils vont ramener d'influence orientale et de choses comme ça, après tout, ce serait juste un juste retour des choses, vu ce que ne serait-ce qu'un Led Zeppelin a chopé Cachemire et autres, quoi.
Ouais, hein, t'as un Mirat aussi, tu vois. T'as un Mirat ce soir qui joue au Festival, oui. de Mamet. Le festival, il est sold out. Ils sont au Théâtre de la Mer devant 1000 personnes ce soir. C'est sold out. Il n'y a pas un ticket disponible. C'est sold out depuis quelques jours. Et voilà, quoi. Ils ont fait.
Voilà, c'est ça que je veux.
Bah écoute, Mirad, ouais, mais ça marche aussi à l'étranger, hein. Ça tourne à travers l'Europe et tout, et ça va aussi jusqu'au Japon, ça va, il manque plus que de booker les États-Unis, mais ça va venir. Je suis convaincu, voilà, ça va venir.
Il faut que les groupes rajeunissent effectivement et que du coup le public rajeunisse aussi. C'est pas normal que les gens du public soient plus vieux que ceux sur scène, ça ne va pas, ça.
Ouais aussi. Bon, c'est encore un autre sujet parce que aujourd'hui les méthodes d'écoute ont changé. Aujourd'hui on n'écoute plus d'albums, oui. tu vois, on écoute du titre, on consomme de la musique. Donc ça aussi, ça. Mais ça c'est un autre sujet, voilà.
Oui, mais malgré tout, on fonctionne encore en album. On ne parle pas à un groupe de la chanson qui vient de sortir, mais à chaque fois, ça reste le moment, on va dire, dans lequel les groupes s'expriment, c'est lorsqu'ils font un nouvel album, pas une nouvelle chanson ou série de chansons.
Ouais, sauf
on
que là.
Les EP, ça ne fédère personne, ça ne n'éveille pas la curiosité, en tout cas, de qui que ce soit. Si tu veux faire de la promo, il faut parler d'un album.
Aujourd'hui, ouais, mais moi, je parlerais plutôt de playlist. Aujourd'hui, on parle de playlist.
Ouais,
c'est ça qui marche.
Alors ta dernière playlist, tu dis ça à un musicien, toi.
Ouais, mais ça c'est le musicien qui parle, mais c'est pas lui qui vend. Celui qui vend, c'est la maison de disques, c'est le label derrière. Donc eux parlent, c'est eux qui ont les langages en fait. L'artiste, lui, il a fait sa musique, ensuite il a donné son truc, il a fait son travail. Après c'est au label de faire, quoi que le métier l'a changé, mais bon, aujourd'hui après c'est au label de faire le son travail à lui. Donc chacun a ses données.
Je pense malgré tout qu'on va rester avec le format de l'album.
J'y crois pas.
Il va peut-être se muter quelque chose. Je pense qu'il faut aussi trouver un support. Parce que regarde les livres. Bien avant le disque, on a enterré le livre, mais combien de fois? Et ben aujourd'hui, ça reste quand même des best-sellers. Alors pas toujours les meilleurs du monde. Hein. Bon, je sais que la biographie de Zaya, ça vendra toujours plus que Victor Hugo, mais bon.
Ouais.
Voilà, donc tu regarderas les librairies, ça reste quand même quelque chose. Donc moi je dis la chose suivante, le vinyle c'est quand même bien relevé et j'en suis ravi parce que j'ai été tout seul pendant longtemps à expliquer vraiment que je non non moi je ne suis pas prêt de jeter mes vinyles, je les écoute encore et avec bonheur et je pleure le remplacement si rapide et si inconséquent qu'on a fait avec le CD. Voilà. Mais on a besoin quand même de bornes et même les groupes, ils ont besoin à un moment de s'isoler, de faire une série de chansons et puis d'essayer de conceptualiser quelque chose dans leur tête, quoi. Donc, ne faire que des séries de chansons, je pense pas que ce soit le meilleur moyen justement les obliger à être créatifs, de les obliger à chercher quelque chose d'un peu fort, d'un peu étonnant, quoi. Voilà. C'est à travers un album aussi qu'à un moment on se met à avoir de l'ambition, à aller au-delà de simplement, allez, j'ai deux, trois accords, deux, trois paroles, et hop, ça y est, on a un morceau, et puis c'est fini.
Ouais, mais là-dessus, on pourrait en parler toute la nuit parce que j'ai aussi mes arguments, tu vois. Aujourd'hui, faire du titre, c'est quand même bien moins cher que de faire un album, quoi. Aujourd'hui, on fait un titre, ça coûte entre 2 et 300 euros, peut-être aller 400 maximum, et tout produit. Et donc aujourd'hui, c'est faisable. Et donc, ça permet de sortir un titre par mois, donc ou voire un titre tous les 2 mois pour la capacité financière ou le budget donc du groupe ou de l'artiste. Par un album, c'est quand même, il faut que tu
Maintenant,
prévois un budget
encore,
d'entre 5 et 6 000 euros, 7 000 euros, donc c'est
l'idéal, c'est les deux, parce qu'à l'époque, souviens-toi, même des Beatles, et justement, c'était le drame de Led Zeppelin, c'est qu'on sortait des 45 tours, et
C'est
le
ça.
plus régulièrement possible. Et les groupes qui sortaient pas de 45 tours, eh ben, ils étaient vite oubliés, hein.
Exactement, exactement. Il y a une
Voilà.
grande personnalité en
Fallait en
Algérie.
sortir des chansons, etc.
Il y
Ouais.
a, il y a une, j'ai eu cette conversation-là avec une grande personnalité en Algérie, quelqu'un, vraiment un grand, grand, grand monsieur, qui m'a dit exactement ce que tu viens de me dire. On revient au format du 45 tours.
Je pense, ça c'est bien, ça c'est bien aussi à la fois c'est une carte de visite, c'est aussi une espèce d'examen parce que c'était un marché assez difficile, hein. Faut capter instantanément, faut être le plus rapide possible pour capter l'audience. Alors que sur un album, on peut se permettre de faire des morceaux un peu plus, on va dire qu'il faut réécouter 15 fois avant de comprendre. Le 45 tours, il faut à la fois étonner, mais séduire vite.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est peut-être un très bon exercice pour les meilleurs groupes, tu vois, soit bref, mais bon.
Jean-Pierre, le mot pour de la fin, s'il te plaît. Tous les jeunes Algériens qui nous écoutent ce soir et qui sont, il y a des jeunes artistes, il y a des jeunes qui sont des jeunes guitaristes, des jeunes bassistes, batteurs, chanteurs, qui ont envie, qui rêvent, mais qui rêvent de réussir. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, toi qui as une carrière énorme et qui as côtoyé les plus grands? Qu'est-ce que tu pourrais leur
De
dire?
réussir en musique ou de réussir
En musique, de rester, enfin, un conseil vraiment artistique pour eux, quoi. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour eux, juste pour eux, quoi, en fait?
Et ben justement de nous amener ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, ce qu'ils parce que c'est ça aussi, je suis pas ultra passionné par ce que racontent, on va dire, les groupes occidentaux ces derniers temps, puisque finalement, politiquement, ils s'intéressent plus à grand-chose, ou alors c'est assez caricatural. Philosophiquement parlant, c'est pas non plus très profond. Et puis après, ils n'ont pas des vies ultra passionnantes, hein. C'est des gens qui ont été voilà, au lycée, puis un peu à l'université, enfin, tu vois, donc ils n'ont pas des vies trépidantes et tout. Alors que là, amener des continents qui sont très 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 différents du nôtre vers une musique en revanche qui est pour moi un peu universelle mais avec vraiment d'autres influences, d'autres idées, d'autres vécus. Voilà, c'est important, c'est le vécu qui est important dans la musique. C'est ce qu'on va sentir au-delà des notes, au-delà des paroles.
Waouh. Eh ben écoute Jean-Pierre, merci beaucoup en tout cas, merci pour les conseils, merci pour les anecdotes et la story, etc. Une demi-heure d'interview avec toi, c'est un pur bonheur. Hein. Je te dis tout de suite que là c'est vraiment. Et ça pourrait durer des heures encore.
C'est toujours un plaisir,
Ouais.
voilà. Et puis surtout, tu salues bien. Et je te remercie aussi pour ton merveilleux travail. Et puis, de toute façon, avec une voix comme la tienne, il faut faire de la radio. Ça, c'est pas possible autrement.
On continue, Jean-Pierre. Merci beaucoup. Et puis, je te souhaite une excellente soirée. Et je te dédicace bien évidemment le prochain titre de Motorhead, le Stone Dead Forever, mon ami.
Voilà, merci beaucoup, Arag.
Ok, ciao, ciao. Et vous écoutez les programmes de la radio Vinny Times, le Classic Rock Radio. Tout de suite, on continue en musique avec le Motorhead, le Stone Dead Forever sur le 113 Rock sur la radio Vinny Times. Jean-Pierre Sabourel, le rock journaliste himself, était avec nous en direct ce soir. Une carrière énorme, vous l'avez pu entendre. Vous avez pu l'entendre. Bien évidemment, après l'émission, vous aurez le podcast en direct depuis le site vinnytimes.fr. On se retrouve juste après, tout de suite. Motorhead sur le 113 Rock, Arag Melodica Marcum, 213 Rock.
Whatever happened to your life?